Géopolitique. Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Trois invités aujourd'hui dans Géopolitique et éventuellement un quatrième invité que l'on tente de joindre au téléphone, mais pour l'instant en vain. En ligne de Dakar, au Sénégal, Ibrahima Fall, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères. Vous avez été aussi secrétaire général adjoint des Nations Unies. De Washington, Christopher Fomunio, politologue d'origine camerounaise et responsable Afrique au National Democratic Institute, le NDI, proche du Parti démocrate, au pouvoir donc à Washington. Et puis, avec moi ici en studio, Albert Bourgie, universitaire, juriste et spécialiste de politique internationale. Nous espérons, au cours de cette émission, joindre au téléphone Alain-Claude Bilibinzé, porte-parole de la présidence gabonaise. Nous allons débattre en avant-première du sommet 1+50, autrement dit de cette rencontre du 4 au 6 août à Washington du président Barack Obama, avec la presque totalité des chefs d'État et de gouvernement africains, sauf une poignée de dirigeants jugés indésirables par la partie américaine. On sait que la France a institué depuis 1973 un sommet avec l'Afrique francophone, sommet qui sera ensuite étendu progressivement à d'autres pays du continent. La Chine, devenue première partenaire économique de l'Afrique, s'y est aussi mise un peu plus tard que la France. Barack Obama prend donc en marche en quelque sorte un train lancé de longue date avec un handicap relatif, dit-on, car beaucoup d'Africains se disent déçus par l'attention peu significative que le premier président américain noir, né d'un père kényan, a accordé à l'Afrique en 6 ans de mandat, 6 ans à la Maison-Blanche. Alors le sommet 1+50 de 48 heures sera axé sur 3 thèmes, investir dans l'avenir de l'Afrique, paix et stabilité régionale, et puis gouvernance pour les générations futures. Alors tout d'abord, Christopher Fomunio, est-ce que l'on peut vraiment tenir un même discours à 50 pays du même continent, certes, mais avec des spécificités et des différences manifestes sur le plan institutionnel, politique ou bien encore économique?
Je crois qu'effectivement, il faut se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas tenir le même discours, mais par contre, on peut s'engager dans la même discussion. Parce que nous constatons au jour d'aujourd'hui que la plupart des défis que rencontrent les pays africains sont des défis transnationaux. En quelque sorte, les problèmes de paix et de sécurité, les problèmes de conflits, de l'extrémisme des djihadistes, toutes ces difficultés ne peuvent plus être résolues dans un cadre strictement bilatéral. Donc, quelque part, je crois que ce format n'est pas très mauvais. Il faudra voir ce qui sortira de là comme substance de débat et de discussion.
Est-ce que vous partagez ce point de vue, Ibrahima Fall?
En partie, j'ajouterais que oui, on peut parler d'une seule voix à 50 États africains quand il s'agit pour le président américain d'exprimer la politique américaine en Afrique.
Oui,
voilà. En réalité, son objectif, c'est de dire aux Africains quelle est la politique américaine en Afrique.
Voilà. Donc on a bien compris, Albert Bourgie, que l'ordre du jour de ce sommet a été quasiment imposé par Washington.
Oui, imposé.
Soumis.
Disons que bien souvent la puissance invitante, surtout lorsqu'il s'agit de la superpuissance, fixe le cadre, presque le calendrier des 2 jours, et puis bien évidemment les priorités qui seraient sans doute accordées à chacun des participants. Mais je pense que le fait que les États-Unis aient en face d'eux 50 États n'empêche pas de fixer des grandes orientations. Mais plutôt, je pense, il me semble en tout cas, que les États africains veulent savoir exactement si le fameux discours d'Accra, encore, je sais pas, une espèce de symbolique qui, depuis le temps, semble petit à petit avoir disparu.
Voilà, la première visite de Barack Obama, une fois élu, donc en Afrique, il y aura une deuxième visite, c'était l'année dernière, il y a tout juste un an, il avait fait 3 pays, le Sénégal, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Je me tourne vers vous, Ibrahima Fall, on l'a entendu d'ailleurs de la bouche de Christopher Fomunio, il y a des questions qui sont communes aux États africains, en tout cas à plusieurs États africains, c'est le terrorisme, et la lutte contre le terrorisme sera au cœur de ce sommet afro-américain. Le phénomène gagne plutôt du terrain puisqu'il ne recule. Seule quasiment l'Afrique australe est épargnée par ce terrible phénomène. Or, contrairement à la France, les États-Unis qui ont pourtant créé un commandement dédié à l'Afrique en 2007, autrement dit Africom, eh bien les États-Unis rechignent à déployer des troupes. Alors pourquoi, selon vous, cette frilosité, Ibrahima Fall?
C'est une frilosité qui n'est pas limitée aux États-Unis. Aujourd'hui, les pays développés ont une préoccupation, c'est leur légitimité vis-à-vis de leurs électeurs. Et déployer des forces dans les pays étrangers, que ce soit en Asie ou en Afrique, expose ces forces et il y a des risques de perte en vie humaine. Et c'est une des raisons pour lesquelles tous ces pays rechignent à déployer des forces.
Alors,
il est vrai maintenant à des stades différents, puisque, comme on l'a vu, la France déploie des forces en Afrique, au Mali, en Centrafrique et ailleurs.
Alors, Christopher von Muyo, est-ce qu'il faut s'attendre à une stimulation de cette aide, donc à lutter contre le terrorisme en Afrique, à l'issue de ce sommet, autrement dit, à de nouvelles propositions?
Ça pourrait être le cas. Mais je dirais aussi, pour enchaîner un peu avec la réponse du ministre Ibrahim Afal, qu'il y a aussi une réticence de la part des Africains de voir les troupes étrangères déployées sur leur territoire. Et quelque part, la démarche américaine trouve aussi faveur parmi les populations africaines, et notamment les intellectuels et la société civile africaine. Mais cela dit, il y a d'autres domaines dans lesquels les États-Unis peuvent aider l'Afrique à lutter contre le terrorisme, notamment en matière de surveillance, de renseignement, de partage d'informations et même de la formation des troupes qui sont appelées aujourd'hui à confronter cette menace qui est vraiment une menace asymétrique, une menace nouvelle pour les forces armées et les forces de sécurité africaines. Donc, je crois que comme c'est une priorité pour beaucoup de pays africains comme pour les États-Unis, je ne serais pas surpris si, lors de ce sommet, cela fasse l'objet de beaucoup d'études, de réflexions, avec des recommandations précises pour la suite.
En réalité, si on veut vraiment faire face aux problèmes de sécurité africaine, il faudrait que les puissances étrangères, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et d'autres pays, mais ce sont ces trois pays-là qui ont eu une orientation stratégique en matière de sécurité africaine, adaptent leur approche de leur sécurité en Afrique à celle décidée par le continent à travers l'Union africaine.
C'est ça.
Il y a en gestation une architecture sécuritaire africaine au niveau de l'Union africaine. Il est temps que les pays étrangers s'articule autour de cette architecture de sécurité africaine décidée par les Africains, plutôt que d'avoir des approches individuelles qui ne concernent que leurs intérêts et pas nécessairement les intérêts des Africains.
Voilà. Oui. Alors, ce que dit Ibrahim Afal, Albert Bourget, est très intéressant.
Oui.
Ça veut dire aussi, finalement, que les États africains doivent aussi apprendre à coopérer entre eux, ce qui n'existe pas toujours.
Oui, apprendre à coopérer et à prendre possession, justement, de ce fameux mécanisme que tout le monde attend, sécurité collective.
Absolument.
Qui serait défini par l'Union africaine, comme vient de le dire le ministre Fall, et qui serait, comment dirais-je, conséquent. C'est-à-dire, il s'agit pas simplement de dire, il y a un conseil de paix et de sécurité, il y a ce qu'on veut, on va développer ou déployer une force, etc. Quand on regarde l'acte constitutif de l'Union africaine, et ce qu'il en est dans la réalité, on craint le pire.
Bien
Mais
sûr.
Je voudrais simplement ajouter que les États-Unis et le ministre Fall, comme Christophe Fomenou doivent le savent, l'un et l'autre, ont toujours rechigné à déployer des forces armées dans un cadre multilatéral qu'ils ne contrôlent pas.
Depuis 1993 aussi, il y a eu le problème de la Somalie, de Restaurant.
Oui, exceptionnellement, il y a eu quelques forces à un moment donné qui ont été placées, où ils ont accepté que ces forces américaines soient placées sous le commandement de l'ONUSOM, justement, l'opération des Nations Unies en Somalie, mais ils ont toujours rechigné. Souvenez-vous de la guerre du Golfe, au début des années 90. C'est une force multinationale qui était contrôlée par les États-Unis et qui n'avait strictement rien à voir, par exemple, avec les Nations Unies.
Bien sûr. Donc, et c'est la même chose en Afghanistan, où le contingent américain est sous commandement américain. Christopher von Monio, il y a aussi, si vous voulez, ce qui apparaît tout de même comme une certaine forme d'impuissance de Barack Obama aussi pour résoudre certaines crises africaines. Je pense à la guerre qui a éclaté au début de l'année au Soudan du Sud, un pays que les États-Unis ont aidé à accéder à l'indépendance, l'un des plus jeunes États africains, sinon le plus jeune État africain. On a l'impression que la diplomatie américaine est incapable, finalement, d'arriver à mettre fin à cette crise qui a des conséquences humanitaires énormes.
Effectivement, sur le Sud-Soudan, cela a fait l'objet d'une déception totale ici sur la place de Washington, parce qu'il y avait un consensus bipartite entre les républicains, les démocrates, tout le monde s'était mis ensemble pour soutenir l'indépendance du Sud-Soudan. Et il y avait beaucoup d'espoir lorsque ce pays a trouvé son indépendance. Mais lorsque la guerre s'est déclenchée entre les différentes factions à l'intérieur maintenant du pays du Sud-Soudan, les États-Unis s'est montré un peu impuissants, je crois par manque de moyens, parce que nous sommes dans une période très difficile sur le plan de la fiscalité interne des États-Unis, mais aussi par la difficulté même dans une intervention, dans une guerre interne, une guerre civile. C'est un peu plus facile d'aider un pays à sécuriser ses frontières par rapport à des attaques externes, c'est un peu plus difficile lorsqu'il s'agit
d'une
des mêmes
civile.
Populations, voilà, d'une guerre civile, des mêmes populations qui se battent les uns contre les autres.
Voilà, Ibrahim Afal, il y a aussi, hein, vous êtes habitué justement, vous connaissez parfaitement bien ce domaine, hein, des problèmes de crise, vous avez été secrétaire général adjoint de l'ONU, on voit aussi la difficulté que les États-Unis ont à finalement convaincre le Rwanda d'éviter des ingérences, hein, dans cette déstabilisation permanente de l'Est du Congo-Kinshasa.
C'est une problématique globale de la région des Grands Lacs. Et à l'intérieur de cette vaste région, 3 ou 4 pays sont particulièrement concernés. La RDC, le Rwanda, l'Ouganda et alternativement le Burundi. Et c'est la raison pour laquelle les Nations Unies avaient initié la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mmh. Aujourd'hui, les pays disposent de mécanismes. Mais il n'y a pas encore de volonté politique réelle de la part des chefs d'État à faire face à ces problèmes de déstabilisation réciproque. Il faut appeler les choses par leur nom.
Mmh. Albert Bourgie.
Oui, moi je voudrais simplement ajouter à propos de l'Union africaine et justement de cette prochaine mise en place d'un véritable dispositif de sécurité collective.
Et de ce que devraient être ses relations avec les...
Oui, justement c'est que ce dispositif soit véritablement soutenu, accepté, soutenu et bien évidemment accompagné par les grandes puissances. Au lieu de cela, on voit quoi ? Un déploiement de des forces françaises, déploiement éventuellement des forces américaines quand c'est nécessaire, stratégiquement.
Au Nigeria,
déploiement,
peut-être, oui.
Et peut-être ailleurs. Ce que je voulais simplement dire, c'est que les États-Unis sont souvent intervenus, en tout cas pour ce qui concerne la sécurité dans telle ou telle région d'Afrique, quand il y avait des enjeux géostratégiques. On l'a vu à propos de la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les Américains étaient omniprésents. Présent, on le voit aujourd'hui par exemple en Somalie, on le voit très peu peut-être, mais un petit peu aussi en Afrique australe, en Ouganda. Il y a aussi le fait que les États-Unis d'Amérique, peut-être depuis la fin de la guerre froide, ont en quelque sorte pris quelques distances avec véritablement cette politique interventionniste qui était uniquement motivée à ce moment-là par la lutte contre le communisme et justement faire en sorte que le communisme ne puisse pas véritablement semer en quelque sorte.
Il n'y a peut-être pas d'intérêt majeur américain défendre dans certaines zones du continent.
Et même des intérêts géostratégiques.
Voilà.
Pour eux, en tout cas, pour les Américains.
Sur RFI, Géopolitique se poursuit avec Ibrahim Afal, Christophe Fomounio et Albert Bourgie. Un débat consacré donc à ce sommet afro-américain du 4 au 6 août à Washington. Sur notre antenne, RFI, Madame Linda Thomas-Greenfield, Christophe Fomounio, la sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines, a clairement affirmé le 10 juillet que les États-Unis vont décourager les révisions constitutionnelles abrogeant notamment la limitation des mandats présidentiels. Alors, est-ce qu'il appartient, selon vous, à Washington de faire la leçon aux Africains sur une question, somme toute, de souveraineté?
Non, je ne crois pas que ce soit une leçon qui vient des États-Unis ou bien de tel ou tel autre pays ami du continent africain ou pays allié. C'est une évidence au jour d'aujourd'hui parce que nous connaissons, nous pouvons identifier un certain nombre de pays qui, pendant les 10 dernières années, ont connu quand même une certaine stabilité et même une croissance économique. Des indicateurs qui allaient dans le bon sens, parce que tout le monde avait quand même une certaine compréhension du cadre constitutionnel, de la gestion des affaires de l'État. Et sûrement que ces derniers temps, avec les mouvements qui essaient de susciter la révision des constitutions à l'infini, effectivement, ce pays-là devient un peu instable et de façon à pouvoir gêner non seulement leur propre croissance économique et politique, mais même le voisinage dans lequel ils se trouvent. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal que les pays amis qui se soucient du respect de ces valeurs universelles aussi puissent quand même aviser pour dire mais faites attention parce que ça pourra vous amener dans des difficultés qu'ont connues d'autres pays par le passé. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce format de discussion multilatérale sera utile parce que ça va permettre quand même des échanges et des échanges des expériences et un partage du savoir et peut-être une amélioration dans le comportement de certains de nos leaders.
Voilà. Ibrahim Afal, est-ce que l'alternance, hein, qui est donc érigée en standard démocratique par les partenaires occidentaux de l'Afrique, est-ce que c'est une règle qui doit s'imposer partout et de la même façon, d'après vous, en Afrique?
Écoutez, je pense que cette problématique doit être replacée dans le contexte général de la gouvernance politique en Afrique. Et elle concerne essentiellement le problème de la liaison entre la légalité et la légitimité. Mmh. Il y a beaucoup de gouvernements qui sont légaux parce que issus du suffrage universel. Par contre, il y a très peu de gouvernements qui sont légitimes, c'est-à-dire qui s'appellent à résoudre les problèmes pour lesquels ils ont été élus et qui restent donc en symbiose avec les aspirations des populations qui les ont élus. Je pense que c'est cette problématique-là qui génère la question de la limitation des mandats. Et isoler ce problème de la contextualisation globale de la problématique de la gouvernance politique me semble être une erreur.
Alors justement, Albert Bourget, comment une administration, l'administration du président Obama, peut-elle à la fois apporter sa bénédiction, ce qui est le cas, hein, au maréchal Al-Sissi, désormais au pouvoir en Égypte, et continuer à diaboliser dans le même temps Robert Mugabe, jugé donc infréquentable pour des raisons de déficit démocratique? Il y a quand même la politique de deux poids, deux mesures.
Il y a bien évidemment la politique des deux poids et deux mesures sur le... Opposer Al-Sissi à Mugabe, c'est peut-être ne pas très bien définir, je dirais, la logique, entre guillemets, des Occidentaux. C'est-à-dire, Mugabe, c'est ce fameux discours, souvenez-vous-en, de Mugabe, ou ces fameux discours de Mugabe, qui ont semé un petit peu le trouble dans un certain nombre de pays occidentaux. Mais pour autant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Mugabe est peut-être celui qui est rejeté par l'Occident,
mais qui est très populaire,
non seulement dans son pays, il a une légitimité, comme vient de le dire Ibrahim Afal, il a non seulement une légitimité, mais il a aussi, j'ai envie de dire, une légitimité au-delà de la légitimité politique, une légitimité historique. C'est vrai qu'on peut pas simplement se fonder sur l'histoire, mais quand même. Et Al-Sissi, c'est le bilan d'Al-Sissi est dramatique.
C'est le retour des militaires au pouvoir en Égypte.
C'est le retour des militaires au pouvoir. Ils n'ont jamais quitté le pouvoir, d'ailleurs, les militaires. Il y a toujours eu, bien évidemment.
On pensait qu'avec le départ de...
Oui, bien évidemment.
De Moubarak, c'était terminé, mais apparemment.
C'était terminé, non, puisque de toute façon, l'armée égyptienne est non seulement, comment dirais-je, détentrice du pouvoir ou de tous les pouvoirs. L'armée égyptienne, c'est également une force économique. Elle a des entreprises, elle a des travailleurs.
Et le soutien de Washington.
Et le soutien, bien évidemment, de Washington. Un soutien militaire et un soutien financier très important. Mmh. Ça l'a toujours été.
Rapidement, Christophe Omonio, pourquoi certains chefs d'État ont été jugés indésirables par Washington, de manière unilatérale d'ailleurs? On sait bien, on sait que, bon, la règle, c'est qu'on invite qui on veut. Mais tout de même, ce sont des pays membres de l'Union africaine et qui sont membres encore de l'Union africaine et qui n'ont pas été du tout marginalisés par l'organisation.
Oui, je crois que c'est une question pertinente qui fait toujours, même à l'heure actuelle, l'objet de beaucoup de débats sur la place de Washington, parce que c'est des pays qui, au départ, étaient déjà sous des sanctions dans les relations bilatérales. Donc, ça aurait été un peu incongru de lever les sanctions américaines par rapport à ces dirigeants, juste pour les inviter pour ce sommet. Je crois que Barack Obama aurait eu à rencontrer vraiment une très forte opposition par rapport, en fait, venant de la part des républicains et des autres acteurs qui, pendant des années, ont considéré que ce régime-là n'était pas en bonne santé avec Washington. Cela dit, sur la place de Washington, vous trouverez même des personnes qui estiment que sur la liste de ceux qui ont été invités, il y a certains qui ne devraient pas participer.
Être là, voilà. RFI, on observe une pause d'une dizaine de minutes, le temps du journal, puis je vous retrouve pour la deuxième partie de Géopolitique. Merci de rester avec nous.